RMC Motors, Arnaud Souk, Jean Lecroix.
Bienvenue à tous sur RMC, si vous nous rejoignez, bon appétit si vous passez à table. Il est 13h05, c'est parti pour Motors, votre dose hebdomadaire de sport mécanique sur RMC. Comme d'habitude, jusqu'à 14h, la Dream Team est à vos côtés pour analyser, pour décortiquer l'actu de la semaine. Bonjour Jean-Luc Roy.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Comment ça va?
Bah moi ça va formidablement bien, tu sais, un Grand Prix et un week-end où nous avons justement la Formule 1 avec le titre qui se décide, le rallye de championnat du monde où le titre peut-être se décider. Et puis on a eu un Grand Prix moto formidable ce matin très tôt, tu t'es levé. Et bien sûr, c'était à 6h du matin. Le Grand Prix d'Australie, bah moi ça va très bien.
Bah voilà, un week-end qui évidemment sourit aux amateurs de sport mécanique à la une évidemment. Donc l'heure du sacre peut-être pour Lewis Hamilton en Formule 1, le Britannique sera quoi qu'il arrive champion du monde pour la 5e fois de sa carrière. S'il se classe ce soir dans les 7 premiers du Grand Prix du Mexique, on vous dit tout dans un instant. À 13h25 dans le Frenchies Corner, des nouvelles évidemment du feuilleton d'Esteban Ocon. Le Normand aura-t-il un baquet en Formule 1 la saison prochaine? La tendance c'est plutôt non. On va en parler, on parlera de son avenir, des réponses à toutes les questions que vous vous posez sur les autres Français aussi. C'est donc dans un petit peu moins d'une demi-heure. Et puis des Français en forme, donc on le disait, au rallye WRC de Catalogne. On sera tout à l'heure avec Gilles Panizzi en direct pour en parler, pour parler de ce duel fabuleux qui nous tient en haleine en ce moment même lors de la Power Stage du rallye de Catalogne. Duel entre Sébastien Loeb et Sébastien Ogier. C'est parti pour Motors.
RMC Motors. Le tour de chauffe.
Quelle joie incroyable. Quelle joie incroyable.
C'est fantastique.
Daniel Ricciardo qui a obtenu la pole position.
Ouais, génial.
Sur ce Grand Prix du Mexique. On l'entend chanter. Lucas Vinois est avec nous, évidemment, notre envoyé spécial au Mexique. Salut Lucas.
Salut Arnaud, salut Jean-Luc, bonjour à tous.
Mais attends, mais tu t'es levé, j'ai vu à 4h25 ce matin à passer des coups de fil avec Flavien qui produit cette émission. C'est fabuleux.
Et on est un peu dépeuplé, Adrien n'est pas là, hein, pour une bonne raison, donc il fallait se lever, j'allais pas laisser Jean-Luc tout seul. Hein.
C'est je vous en prie, messieurs.
Puis tu t'es pas couché en fait, t'as fait la fête hier soir, c'est pour ça.
Non, je me suis couché pour essayer d'être frais, il y a quand même un titre en jeu ce soir.
C'est bien.
Un titre en jeu absolument, donc pour Lewis Hamilton, on rappelle un petit peu toutes les conditions pour cette lutte, pour ce 5e titre de champion du monde.
Bah, en fait c'est assez simple, déjà il faut absolument que Vettel gagne, c'est sa manière de préserver le suspense et de repousser éventuellement l'échéance, mais il suffit à Hamilton d'être dans les 7 premiers, donc au moins 7e, pour coiffer la couronne dès ce Grand Prix. Donc en fait, la mission d'Hamilton est assez simple, on va dire, sauf accident ou incident. S'il termine le Grand Prix, on voit pas très bien comment il pourrait terminer au-delà de la 7e place, mais il faut encore que Vettel le gagne. C'est-à-dire que si Vettel ne gagne pas ce Grand Prix, eh bien Hamilton est titré. Donc voilà, il faut que Hamilton conserve 50 points au moins à l'issue de ce Grand Prix, puisqu'il n'en restera que deux, le Brésil et Abu Dhabi.
Lucas, l'ambiance, quelle est-elle justement dans le clan de Lewis Hamilton? Est-ce que tu as pu palper ça?
Oui, il est pas très stressé, hein, Lewis Hamilton. De toute façon, il sait que c'est quasiment fait, et même son plus proche rival, le seul même rival, Sébastien Vettel, n'y croit plus. Il l'a déclaré de toute façon à l'issue des qualifications que ce n'était qu'une question de temps. Donc tout va bien pour Lewis Hamilton, qui veut quand même essayer de terminer ce championnat en beauté, ne pas faire 9e comme l'année dernière, mais peut-être essayer de gagner comme en 2014, comme en 2015, pour donner un petit peu plus de saveur encore à ce 5e titre mondial.
Très bien, bon, on va l'écouter peut-être, Lewis Hamilton, le Britannique, qui donc lance ce 5e titre de champion du monde.
La façon dont vous prenez le départ ici est importante, mais bon, c'est une longue course après, vous devez prendre soin de vos pneumatiques, avoir la bonne stratégie, c'est ce sur quoi je vais me concentrer. S'il pleut, cela m'importe peu, Red Bull a beaucoup d'appui, donc ils seront toujours rapides dans des conditions de piste mouillée. C'est vrai que la pluie ouvre pas mal d'opportunités, mais cela m'importe peu.
Voilà, Lewis Hamilton qui fait fi, on va dire, un petit peu de toutes les conditions autour de lui. C'est pas son problème, lui, il va faire son taf comme d'habitude.
Écoute, il est d'une force mentale impressionnante, de toute façon, depuis le début de la saison. S'il a des sentiments, en tout cas, il ne laisse pas paraître, contrairement à Vettel, et on l'a évoqué dans les grandes gueules du sport il y a un instant, qui, lui, est un peu friable psychologiquement. Et en plus, suprême élégance, Lewis Hamilton s'est permis à Austin de dire, moi, je trouve qu'on critique un peu trop Vettel par rapport à ses erreurs, etc. C'est un grand champion, c'est un grand pilote et il a raison, comme disent les Japonais, pour vaincre, il faut vaincre un adversaire valeureux.
Ouais.
Donc c'est vraiment la goutte d'eau.
On rappelle qu'il n'y a sans doute jamais eu duel aussi, on va dire, prestigieux que ce duel Vettel-Hamilton dans l'histoire du championnat du monde. 8 titres de champion du monde comme ça qui se battent pour en obtenir justement un 9e, c'est incroyable.
Alors, Tu as raison si on se réfère au palmarès, sinon évidemment on a tous en tête les luttes Prost-Senna, je vais enfoncer des portes ouvertes, hein, ou Hakkinen, Schumacher, enfin bah, il y en a eu, mais tu as raison.
Je parlais en termes vraiment de palmarès.
Tu as raison, au niveau du palmarès, effectivement, deux quadruples de champions du monde déjà, bah, il fallait qu'ils courent ensemble, hein, ce qui est le cas, et se battre pour égaler Juan Manuel Fangio, qui est le pilote mythique, peut-être qu'on ne connaît plus aujourd'hui, mais qui était un pilote extraordinaire dans les années 50, et puis c'est quand même le deuxième dans les rangs de l'histoire derrière Michael Schumacher.
Alors justement, Sébastien Vettel, messieurs, Jean-Luc, Lucas, j'ai envie de vous poser moi cette question. Est-ce que c'est encore l'homme de la situation quelque part chez Ferrari? Est-ce que il a été à la hauteur de ce qu'on attendait de lui, de ce qu'on pouvait attendre de lui cette saison?
Allez, je vais laisser Lucas répondre. Moi, je me suis exprimé dans les grandes gueules, mais je vais y revenir. Lucas, qu'est-ce que t'en penses?
Ben c'est difficile. En fait, moi, ce qui me perturbe, c'est à quel point Vettel avait fait preuve de sang-froid chez Red Bull. Il était incroyable. C'était un tueur chez Red Bull, et Marc Weber peut le dire, hein, de toute façon. Mais même je me rappelle au Brésil en 2012, il part en tête à queue. Il est à la lutte avec Alonso. Il est complètement dans le sens inverse de la piste. Il ne s'affole pas. Et là chez Ferrari, c'est vrai que cette année, c'est incroyable le nombre d'erreurs qu'il a pu commettre. Alors on lui fait toujours confiance. Hein, Mauricio arrive. Binet lui fait confiance, il a dit que Vettel serait champion tôt ou tard chez Ferrari. Le problème, c'est que peut-être que Vettel aurait pu l'être tout simplement cette année sans autant d'erreurs. Alors on a parlé peut-être des mauvaises améliorations qu'on a pu mettre sur la voiture, mais je pense que c'est un cache-misère. Le problème, c'est Vettel a fait trop d'erreurs, et c'est la raison pour laquelle Ferrari ne va pas remporter le titre pilote cette année. On rappelle qu'il court après depuis 2007 avec Raikkonen, quand ils avaient remporté le titre juste devant, hein, Lewis Hamilton, qui effectue sa première saison d'ailleurs.
Oui, moi je vais m'exprimer, je vais le dédouaner un tout petit peu, c'est le syndrome Alonso, puisque Fernando Alonso n'est pas parvenu, malgré ses deux titres de champion du monde, et malgré cinq saisons chez Ferrari, n'est pas parvenu à lui arracher son troisième titre et à ramener Ferrari sur le haut du podium. Donc je pense qu'effectivement, Vettel un peu friable psychologiquement. On le disait en début de saison, hein, très clairement, en disant il ne faut pas qu'il réitère les erreurs qu'il a commis l'an dernier en 2017, où à partir de la moitié de la saison, bah, c'est Hamilton qui avait pris la main. Et malheureusement pour Vettel, il a refait la même chose.
C'est quoi? C'est une question mentale?
Indubitablement, oui. Je te réponds. Pour moi, le tournant de la saison, je l'évoquais tout à l'heure, c'est encore une fois ce Grand Prix d'Hockenheim en Allemagne, devant son public, dans le stadium, où il est en tête, etc. Il se fait piéger bêtement. Ça peut arriver à tout le monde. Oui, mais pas quand tu es quadruple champion du monde, que tu pilotes une Ferrari devant ton public. Et à partir de là, quoi qu'il en dise, la saison n'a plus été la même, et après il a commis erreur sur erreur. On va pas lui enfoncer la tête sous l'eau et lui taper sur le casque, mais oui, c'est clair que là il y a une fracture psychologique.
Sébastien Vettel qui s'est donc classé quatrième de la séance de qualification hier soir de ce Grand Prix du Mexique, juste derrière le Britannique Lewis Hamilton. On va écouter le pilote Ferrari.
Pas mal. I think it was close.
Je pense que nous étions proches, c'était sympa, intense, nous avons manqué le top 3, donc c'est un peu dommage, mais bon, c'était une bonne qualification, très serrée, je pense que nous avons manqué de grip par rapport au pilote devant, nous verrons ce que nous pourrons faire tout à l'heure.
Moi j'ai une question quand même. Est-ce que Sébastien Vettel, enfin, est-ce qu'à un moment aussi chez Ferrari on peut se poser la question, pourquoi pas, de se dire, ben, s'il n'est pas l'homme de la situation, voilà, pourquoi resterait-il justement dans le baquet, Jean-Luc? Est-ce que c'est une question qu'on peut se poser, ça, chez Ferrari?
On peut se la poser, mais il a un contrat à longue durée, hein. Il a un contrat jusqu'en 2020, donc qui sera honoré évidemment, parce que là on va pas le descendre, surtout que arrive à ses côtés un tout jeune pilote de 21 ans, on en a parlé longuement, Charles Leclerc. Pétri de qualité, et puis avec des ambitions énormes, déjà de remporter un Grand Prix et puis de remporter un jour un titre. Donc il est évident que Vettel, qui était habitué à Raikkonen et qui dominait sans trop de problèmes Raikkonen, à part évidemment Monza, mais là aussi, psychologiquement, c'est une autre affaire. Je pense que tu seras de mon avis, Lucas. Mais c'est vrai que Charles Leclerc peut être le chien dans le jeu de qui de Ferrari l'an prochain.
On revient à la Formule 1 et à cette grille de départ du Grand Prix du Mexique ce soir. On le disait, Lewis Hamilton 3e, Sébastien Vettel 4e, et une première ligne, Jean-Luc, 100% Red Bull.
Oui, avec juste un mot si tu veux bien, oui. Parce que ça y est, c'est tombé, Loeb et Elena l'ont emporté à l'instant,
ah,
double
voilà.
WRC. Voilà, 79e victoire en carrière devant l'autre Seb Ogier, donc il fait une très belle opération au championnat, on y reviendra.
C'est le rallye de Catalogne,
c'est le rallye
WRC, on y revient tout à l'heure à 13h40, voilà, avec Benoît Boutron et Gilles Panizzi qui sera notre invité.
Ma réponse c'est que oui, Ricciardo encore une fois est un pilote très solide en course, il est épargné par les problèmes mécaniques. Cette pole, c'est seulement la troisième de sa carrière, la deuxième de la saison. C'est vrai que pour pour moi c'est le favori très clairement s'il n'y a pas d'incident ou d'accident, parce que c'est un pilote solide. Évidemment Verstappen va tout faire pour essayer de la décrocher, celle-là aussi, déjà qu'il s'est fait souffler la pole au dernier moment par son équipier Ricardo, et puis c'est vrai qu'il y a du très lourd derrière, on l'a dit avec la bataille Vettel-Hamilton. Mais bon, je pense que Ricardo fera le boulot, il en est largement capable, et en course c'est quelqu'un de tellement solide.
Et Lucas, tu vas nous en parler dans un instant, tu as rencontré un Daniel Ricciardo particulièrement heureux, on l'a entendu tout à l'heure sur la radio justement de Red Bull, la radio de sa voiture, particulièrement heureux d'avoir signé cette pole position au Mexique.
Good. Very happy.
Je suis très heureux. Je sais que ce n'était que les qualifications, mais bon, les qualifications, c'est quelque chose de spécial quand vous réalisez la pole. Ce n'est que la troisième fois de ma carrière que ça m'arrive. Les autres fois, c'était à Monaco. Alors, ça commence toujours par un M, mais cette fois-ci, c'est Mexico. Retrouver la pole ici, c'est vraiment super. Je pense que les circonstances, le fait de faire le meilleur temps au tout dernier moment, alors que Max avait réalisé le meilleur temps de toutes les séances d'essai, puis Mercedes est revenu en haut de la feuille des temps. Je pense que personne ne s'attendait à ce que je fasse la pole, mais je savais que j'avais encore quelques dixièmes sous le pied. Heureux d'avoir été les chercher.
Happy to find it.
Heureux chez Daniel Ricciardo, heureux chez Red Bull, on imagine également, Lucas.
Oui. Alors chez Red Bull, c'est assez marrant quand même l'image qu'on a pu voir du garage. Vous le savez, de toute façon, l'heureux élu chez Red Bull, c'est Verstappen. Hein. C'est sûrement pas Ricciardo. D'autant plus que Ricciardo a décidé de partir chez Renault. On n'y a que très peu goûté, pas encore digéré du côté de l'écurie au Toro. Donc au début, on a fait un peu grise mine. Christian Horner était limite déçu. Puis bon, devant les caméras de télévision, après on a fait semblant d'être heureux. Ricciardo parlait des circonstances et des conditions. Ricciardo n'est plus du tout en odeur de sainteté chez Red Bull, ça se passe pas bien du tout, il n'a plus aucune amélioration, il n'est convié à plus aucun meeting, on lui fait vivre un petit peu l'enfer. Donc vous pouvez comprendre sa joie hier quand il a passé la ligne et qu'il était en pole position.
Et je rajouterai à ce que vient de dire très justement Lucas, c'est qu'en plus à aujourd'hui, le problème des essais post-saison, on ne permettrait pas, alors je trouve ça d'une mesquinerie, je l'ai déjà dit ici, allez c'est mon coup de gueule, d'une mesquinerie de la part de Horner, d'interdire à Ricciardo de rouler avec Renault à l'issue des essais d'Abu Dhabi en fin de saison. C'est vraiment mesquin, c'est inadmissible. Moi aussi, je suis ravi pour Ricciardo et j'espère qu'il va le remporter celui-là.
Bon, en tout cas, juste derrière lui, le Néerlandais Max Verstappen a signé la deuxième position de cette séance de qualification. Voilà, même si ça fait grise mine chez Red Bull qu'il soit pas en pole position, bon, il est quand même là.
Oui. Bah oui, il est là. De toute façon, Verstappen, c'est un compétiteur incroyable. Alors, il aurait pu décrocher sa première pole. Il a toujours pas décroché de pole position. C'est ça qui est absolument incroyable. Alors, des victoires, c'est vrai qu'il commence à en avoir. Il en a quatre. Hein. Il en a décroché une encore cette saison. Mais Verstappen, à un moment, il était un petit peu dans la zone de turbulence aussi. Il commettait beaucoup d'erreurs, lui aussi.
Il commettait beaucoup d'erreurs. Il en a peut-être un petit peu confiance, justement. Max Verstappen, on va l'écouter.
Si vous êtes le plus rapide lors de toutes les séances d'essai libre, oui, vous êtes déçu, d'autant plus que nous avons eu un problème qui nous a empêché d'être à la limite avec la voiture. J'étais même surpris d'être en pole position à un moment avec les soucis que nous rencontrions. Mais bon, le moteur bloquait les roues arrière dans les virages lorsque je relâchais l'accélérateur, c'est tout ce que je pouvais faire.
Voilà, Ricciardo, Verstappen, Lewis Hamilton, Sébastien Vettel, Valtteri Bottas, Kimi Raikkonen, ce sont les trois premières lignes de ce Grand Prix de Formule 1, départ ce soir 20h10, Grand Prix du Mexique, 19e et antépénultième Grand Prix de la saison. On vous le rappelle, Lewis Hamilton, pour être sacré, a besoin simplement de terminer dans les 7 premiers. Quoi qu'il arrive.
Si Vettel gagne.
Voilà, non, mais ça veut dire que quoi qu'il arrive, si jamais il est dans les 7 premiers du Grand Prix, il sera sacré.
C'est-à-dire, si Vettel ne gagne pas, de toute façon, voilà. On va dire que Hamilton est champion, il faut 50 points à l'issue de ce Grand Prix.
Un petit mot, messieurs, Lucas, Jean-Luc, sur l'altitude de ce Grand Prix de Mexico qui a été évoqué par certains pilotes. On entendra peut-être d'ailleurs Max Verstappen dans un instant. C'est quelque chose qui joue sur l'aérodynamique notamment.
Bah Lucas, est-ce qu'il te reste du souffle?
Non mais c'est vrai qu'on le sent, on le sent lorsqu'on monte les escaliers, on a le souffle court ici. Non mais c'est la raison pour laquelle les Red Bull sont aussi performantes ici, c'est un circuit particulier. Elles se sont montrées très à leur avantage à Monaco et elles le sont aussi ici. Il y a moins d'appui parce que la densité de l'air est moins importante. Donc c'est le grip mécanique, c'est l'adhérence mécanique de la monoplace qui joue une grande importance ici, et on sait que cette Red Bull dans cet exercice, c'est tout simplement les meilleurs.
Altitude, pardon.
Je t'en prie, j'allais juste rajouter, il se dit que c'est le meilleur châssis. Là, je crois que, effectivement, on est en train de le démontrer chez Red Bull.
J'allais rajouter altitude moyenne de 2240 mètres à Mexico. On va écouter, justement, Max Verstappen, parce que si tu as le souffle court, Lucas, il n'y a pas que toi.
Le moteur a plus de difficultés pour respirer, donc le déficit que nous avons sur cette piste est moindre à ce niveau par rapport à la concurrence. Pour ce qui est de l'appui, vous en perdez beaucoup puisque la densité de l'air est moins importante en altitude. Nous avons le plus gros aileron, celui de Monaco, et pourtant nous avons encore moins d'appui qu'à Monza. La performance dépend davantage de l'adhérence mécanique de la monoplace et la nôtre est très performante dans ce secteur. C'est la raison pour laquelle nous sommes compétitifs sur cette piste, même s'il y a de longues lignes droites.
Juste un tout petit mot pour étayer évidemment ce que dit Verstappen. Le paradoxe, c'est que chez Mercedes, on a cramé les pneumatiques les plus tendres, les fameux hyper soft, lors des essais, parce qu'on disait on a trop de puissance, c'est-à-dire on passait pas la puissance au sol, donc on cramait la surface du pneu, ce qui est quand même totalement paradoxal d'avoir trop de puissance. Alors on va dire à contrario que c'est parce que le moteur Renault n'a pas assez que du coup les Red Bull motrices. Mais bon, c'est pour rire.
La Formule 1, pardon, on continue à en parler dans un instant sur RMC. Juste un nouveau mot de WRC. Donc Jean-Luc nous l'a annoncé il y a quelques secondes. Benoît va nous faire un récapitulatif complet. Sébastien Loeb s'est donc imposé sur le rallye de Catalogne.
C'est complètement dingue ce qui s'est passé en Catalogne. 79e victoire en WRC pour Sébastien Loeb et Daniel Elena. C'est quand même un événement. Hein. Il n'est pas là tout au long de la saison. Et il parvient quand même à s'imposer sur ce rallye de Catalogne. Deuxième place pour Sébastien Ogier.
Bien joué.
Qui prend la tête du classement des pilotes grâce à quoi? Grâce à son résultat en Power Stage. Eh oui, puisqu'il inscrit 4 points grâce à son résultat en Power Stage. Et du coup, il est en tête du classement des pilotes avec seulement 3 petits points d'avance sur Thierry Neuville qui a terminé 4e. On aura une dernière épreuve en Australie dans 15 jours. Complètement dingue. Mais Ogier a prouvé qu'il était un patron quand même dans cette catégorie.
Un champion formidable. Le seul problème, c'est d'aborder en tête, effectivement, on en reparlera.
Et ça sera peut-être un handicap.
Sur Terre. Exactement, c'est paradoxalement.
Vrai. Allez, on revient sur le rallye tout à l'heure à partir de 13h40 sur RMC dans Radio Paddock. On sera en direct avec Gilles Panizzi, ancien pilote justement de WRC, aux nombreuses victoires dans cette compétition. D'ici là, la Formule 1 continue dans Motors dans un instant sur RMC avec le Franchise Corner. C'est juste après ça, 13h23. Restez bien avec nous, Motors continue sur RMC.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC Motors, Arnaud Souk, Jean Lecroix.
Motors continue jusqu'à 14h, toute l'actu comme
il
tous
est
les
beau
dimanches,
ce Motors, hein,
évidemment, magnifique. toute l'actu évidemment comme tous les dimanches des sports mécaniques. On reste évidemment sur ce Grand Prix du Mexique, ce Grand Prix de Formule 1. Juste pour moi l'occasion de vous rappeler que à la mi-temps du rugby, l'Union Bordeaux-Bègles mène toujours donc 8-3 face à Lyon. On retournera à Chaban-Delmas retrouver Nicolas Paolorsi dans quelques petites secondes. On a évoqué le paddock international, on va maintenant évoquer nos Français.
RMC Motors, le Franchise Corner.
Et oui, le Franchise Corner, l'actualité de nos pilotes français en Formule 1. Ils sont nombreux, c'est vrai. Esteban Ocon, Pierre Gasly, Romain Grosjean. On s'est accaparé un petit peu Charles Leclerc.
Oui, mais depuis le début, je l'ai dit. Bon, comme d'accord. Ça, c'est fait. Allez, on arrête d'en parler. On assume. Franco-Monégasque.
Le Franco-Monégasque. On assume justement le Franco-Monégasque qui sera chez Ferrari la saison prochaine et qui a signé le 9e temps des essais qualificatifs hier. Jean-Luc et Lucas, encore une fois dans le top 10, c'est plutôt intéressant pour Charles Leclerc.
Bah écoute, il démontre une nouvelle fois son talent. On l'a vu même encore mieux que ça quand la piste était un petit peu difficile, comme toujours, quand le pilote peut démontrer son talent et qu'il n'est pas handicapé par la mécanique. Mais c'est clair, et Lucas, je pense que tu abonderas aussi, c'est clair qu'il tire cette équipe Sauber vers le haut, même si son équipier Marcus Ericsson, pour une fois, n'est pas loin derrière lui. Il est vraiment même très proche et juste à ses côtés sur la grille. Mais c'est clair que Charles, le recrutement par Ferrari n'a pas été un hasard, évidemment.
Lucas.
Oui, non, bah de toute façon c'est la 6e Q3 pour Charles Leclerc cette année. Sauber était très loin aux essais hivernaux. C'est la plus grosse progression, c'est la meilleure progression d'une écurie dans le paddock cette année. Il y est pour beaucoup. Il a réussi à maximiser les performances de sa monoplace, à inscrire des points. On a tendance à oublier que c'est un rookie, hein, Charles Leclerc. C'est sa première année en Formule 1, mais on a l'impression qu'il a déjà une expérience folle. Il gère tout type de situation. Quand il faut aller réaliser un bon tour en Q3, il est là. Quand il faut aller dépasser sur la piste, il est là. Non, c'est pas étonnant que Ferrari ait été le chercher pour remplacer Kimi Raikkonen. C'est vraiment l'avenir de la Formule 1.
Et donc, il s'est classé 9e de cette séance de qualification, juste devant Marcus Ericsson, d'ailleurs, son coéquipier. On va écouter Charles Leclerc.
Honnêtement, non, pas aujourd'hui, parce que je suis content de mon tour. On a vraiment fait step by step de la Q1 à la Q3. Au Q3, je fais mon meilleur tour. Donc voilà, c'était compliqué d'espérer mieux. On était vraiment bien en FP3. En qualif un petit peu moins bien avec la température qui s'est un petit peu haussée. On a eu un petit peu plus de difficultés à régler la voiture. Mais bon, encore une autre Q3, donc c'est plutôt bien.
21 ans, 21 points au championnat du monde pour le moment. Bon, c'est le hasard.
On espère que ça va pas, oui, qu'il en aura plus à la fin de sa carrière.
Je pense qu'il fera mieux l'an prochain. Même une fois, il peut faire mieux aussi.
C'est tout le mal qu'on lui souhaite, et évidemment 25 points hein, pour une victoire, faut-il le rappeler. Mais justement, la course, comment ça peut se passer pour Charles Leclerc en partant de la 9e position?
Ah, écoute, intrinsèquement, en termes de performance dans des conditions normales, c'est clair qu'il faut pas attendre Charles sur le podium par exemple, ou même dans le top 5 hein, puisqu'on sait très bien qu'elle est si intouchable devant lui. Et puis les Renault qui se montrent particulièrement performantes et constantes également depuis le début dans le top 5 hein, même. Donc je sais pas ce que t'en penses, Lucas, mais effectivement, cette barrière jaune aussi, elle va être très difficile. La barrière jaune, ça te va, ça? Elle va être difficile à franchir.
Ouais, c'est pas mal. Non, bah, y a les Renault, mais il va falloir regarder derrière aussi, hein, parce qu'on a des gros doutes sur la tenue des pneumatiques hyper tendres avec lesquelles vont s'élancer les pilotes Sauber et les pilotes Renault. Esteban Ocon et Sergio Perez ont choisi une stratégie complètement différente. Et si les Sauber se font passer au départ, ça risque d'être très compliqué par la suite. Pirelli ne sait pas trop jusqu'où on pourra emmener ces pneumatiques hyper tendres. Ce qui est sûr, c'est que Esteban Ocon et Sergio Perez notamment ont le choix puisqu'ils ne sont pas passés en Q3. Donc on pourra avoir plusieurs stratégies, beaucoup de dépassements. En tout cas, ce qui est sûr pour Charles Leclerc, c'est qu'il faudra essayer de garder la meilleure position possible à l'issue du premier tour, résister, tenir ses pneumatiques et ensuite espérer avoir la bonne stratégie.
Alors comment voit-il les choses justement, Charles Leclerc? On va l'écouter.
Je pense que ceux qui vont partir hors du top 10 vont faire un choix différent. Ça va être difficile pour nous honnêtement, parce que les hyper vont être très difficiles à garder en vie jusqu'à la fin. Pas jusqu'à la fin de la course, mais en tout cas pour essayer de faire un relais. Donc ça va être compliqué, mais bon, on va essayer de les garder le plus longtemps possible.
Voilà, c'est l'une des clés de la course, hein, il a tout résumé, puisque comme l'a très bien dit Lucas, c'est hyper soft, c'est-à-dire la gomme la plus tendre, je sais qu'il faut toujours expliquer, c'est tellement compliqué, c'est pour ça que l'an prochain on aura que 3 qualités de gomme, même si ça n'est pas la même que l'appellation recouvre. Enfin, on va pas rentrer dans le détail, même si dans Motors on sait qu'on a affaire à des spécialistes, mais pas seulement. Donc là, on ne sait pas combien de temps ces pneumatiques vont durer, notamment Mercedes, on l'a vu lors des essais, les crament assez rapidement. Donc est-ce que ce sera le cas des Sauber? On sait qu'avec le pilotage justement très très précis et très délicat de Charles, on peut espérer les maintenir en vie assez longtemps. Alors peut-être que d'autres vont s'arrêter devant lui, peut-être pas lui, va savoir.
Alors dans le reste de Frenchy's Corner, on peut parler également de Esteban Ocon, qui pour le coup a signé le 11e temps. C'est le meilleur français derrière Charles Leclerc, si on considère que Charles Leclerc est franco-monégasque, le meilleur français de cette grille de qualification. Donc 11e Esteban Ocon sur sa Force India, deux places devant d'ailleurs son coéquipier Sergio Perez, le régional de l'étape. La grande question, évidemment, c'est toujours la même avec Esteban Ocon. Et au fur et à mesure que les semaines avancent dans l'année, on a l'impression que que la réponse à notre question, elle sera de plus en plus négative. Aura-t-il un baquet la saison prochaine, Esteban?
Mais je crois qu'il faut être lucide, et sûrement Lucas a des infos venues du paddock, mais plus ça va et moins ça va pour lui, parce qu'effectivement la seule opportunité, ça va être le deuxième baquet Williams, puisque chez Force India, c'est un secret de polichinelle que c'est évidemment Lance Stroll qui va débarquer avec son papa qui a racheté l'écurie, et tout le monde le sait. Donc effectivement, ce deuxième baquet Williams, s'il y a un gros annonceur pour payer le baquet, eh bien on n'aura pas besoin d'un pilote payant entre guillemets, mais on va en avoir besoin. Je sais pas ce que t'en penses, Lucas.
Oui, non, mais de toute façon, c'est clair, hein, s'il y a ce sponsor, à ce moment-là, Esteban Ocon pourrait prendre place aux côtés de George Russell l'année prochaine chez Williams. S'il n'y a pas l'apport de ce sponsor, ce sera un pilote payant. Alors, ce pourrait être Sirotkin, ce pourrait être un autre pilote russe. En tout cas, dans l'entourage d'Esteban Ocon, on annonce davantage travailler pour 2020 que pour 2019. Si 2019, ça se décante, ce sera très bien, ce sera une super opportunité pour Esteban Ocon. Mais aujourd'hui, on préfère travailler sur 2020 et trouver des opportunités pour dans deux ans, donc, ouais. et peut-être pourquoi pas chez Mercedes à la place de Bottas, si Bottas n'est pas reconduit par la firme étoilée.
Mais ça dit quoi du niveau d'Esteban Ocon, le fait qu'il ait autant de difficultés finalement à trouver un baquet? C'est un hasard, c'est un concours de circonstances, ou c'est simplement qu'il plafonne?
Ah non, pas du tout, il est excellent et personne ne remet en cause ses qualités de pilote, loin s'en faut. Et c'est ça qui est dramatique, là aussi on le dit souvent, c'est le problème de la Formule 1, c'est de ne pas permettre à des pilotes talentueux comme les Esteban, et tout le monde est d'accord là-dessus, y compris, on lui a tressé des couronnes de laurier, y compris au niveau des meilleurs. Lewis Hamilton ou Vettel lui ont demandé, mais qu'est-ce que tu fais, où tu vas, qu'est-ce qui se passe? Et c'est un drame, effectivement, qu'Esteban n'ait pas de baquet l'an prochain. C'est une honte, même, on peut le dire. Et ben, ça va être le cas, malheureusement. On peut, à 99%, à moins d'un miracle, encore une fois. Donc c'est une honte.
Voilà. Alors, en tout cas, Esteban Ocon, il sait... Oui, je t'en prie, Lucas.
Il y a eu un concours de circonstances défavorables aussi, puisque Ocon était approché par Mercedes, le contrat était dans les mains de Toto Wolff, et Renault est venu dire à Toto Wolff qu'il voulait engager Esteban Ocon. Le problème, c'est qu'entre-temps, Daniel Ricciardo s'est manifesté, et Renault a préféré engager Daniel Ricciardo, ce qu'on peut comprendre, il a de l'expérience, il a déjà gagné des Grands Prix. Et donc Esteban Ocon s'est fait tout simplement avoir, c'est pas de sa faute, c'est un mauvais concours de circonstances, mais malheureusement, qui coûte cher puisqu'il ne sera sûrement pas titulaire l'année prochaine.
Et pourtant, il se classe deux places de mieux sur cette grille de qualification que Sergio Pérez, avec qui
devant son public. Voilà, devant Sergio Pérez, qui est l'idole locale.
Justement, Esteban Ocon, il en parle de Sergio Pérez et de ce côté idole locale de Sergio Pérez, une superstar au Mexique.
J'essaie de comparer à quelqu'un de chez nous, peut-être. Je pense que personne, on n'a pas vraiment de star chez nous, quoi. Vraiment sportive, qui c'est qu'on a? Mbappé, voilà. Bah, je pense que c'est pas loin. Ou peut-être, Griezmann ou Pogba, quelque chose comme ça. Mais ouais, ici, enfin, Sergio, il a sa photo sur les grands panneaux de 50 mètres sur l'autoroute. Enfin, non, il peut pas marcher. Enfin, c'est vraiment une superstar, quoi.
Et puis on rappelle que c'est le seul pilote. Il y avait Esteban Gutiérrez qui essaie de revenir, mais là aussi on n'y croit pas, honnêtement. Lui, il dit qu'il négocie aussi avec Williams. Je vois pas très bien revenir. Et puis on rappelle que ce circuit porte le nom des frères Hermanos Rodriguez, Pedro et Ricardo Rodriguez. Ricardo qui s'était tué à 20 ans sur ce circuit dans une courbe qui a disparu d'ailleurs maintenant, la Peraltalda. Donc c'est deux très très grands champions des années 60 et 70.
On continue à dérouler la grille de ce Grand Prix de Formule 1 ce soir 20h10 en direct sur RMC, Grand Prix du Mexique, 19e et antépénultième Grand Prix de la saison. On parle des Français, on a donc parlé de Charles Leclerc 9e, Esteban Ocon 11e. Le troisième Français sur la ligne, c'est Romain Grosjean. Il partira très très loin en 9e ligne, justement, en 18e position. C'est assez décevant pour Romain Grosjean.
C'est vrai, la monoplace n'a pas fonctionné depuis le début, manifestement. En plus, on a eu beaucoup de problèmes techniques, plutôt du côté de Magnussen, d'ailleurs, parce que Romain a pu rouler. Et puis, il y avait ces trois places de pénalité. On rappelle qu'il a harponné donc Charles Leclerc au dernier Grand Prix. D'ailleurs, il a pris trois places de pénalité, donc il rétrograde. Et en plus, des points en moins sur le permis. On peut dire qu'il n'est pas, effectivement, dans une situation favorable.
Des points en moins sur le permis, on rappelle un petit peu, pour ceux qui nous rejoignent, qui connaissent pas forcément ce que c'est.
On a instauré ça en Formule 1 depuis quelques saisons. Là aussi, on peut en penser ce qu'on veut. Moi, je suis assez d'accord avec Romain qui désapprouve. C'est un peu n'importe quoi. C'est comme sur la route. C'est-à-dire qu'effectivement, on a 12 points au départ. Et quand on commet une erreur, on enlève 1, 2, 3 points selon la gravité. Il y a un comité qui se réunit. Enfin, je vois pas le paradoxe avec ce qui se passe sur la route, que je trouve déjà débile. Donc, voilà. Je peux trouver que ça encore plus débile pour la Formule 1.
Donc là, s'il fait une erreur, concrètement, il participera pas au Grand Prix du Brésil.
Alors, c'est-à-dire qu'il lui reste 2 points. Donc, si jamais il perd ses 2 points, effectivement, alors il doit en récupérer un à l'issue de ce Grand Prix. Ah. C'est un peu compliqué là aussi. D'accord. On va pas rentrer dans le détail. Enfin, on s'en fout un peu. Mais il risque, oui, de pas rouler. Si jamais il prenait 3 points de pénalité, il pourrait être privé d'un Grand Prix. Ça lui est déjà arrivé dans le passé, mais pour une raison évidente. On s'en souvient, l'accident de 2012 au départ, où il avait d'ailleurs failli faire très très mal à Fernando Alonso. Il avait été privé du Grand Prix de Monza. Mais là, ce serait une histoire de réglementation. On espère de tout cœur, et pour lui et pour la Formule 1 aussi, qui en sortirait pas grandi non plus, que ça va pas se passer comme ça.
Allez, puisqu'on parle de pénalité, un pilote français qui a également été pénalisé, qui partira dernier ce soir sur la grille de départ, c'est Pierre Gasly sur sa Red Bull Toro Rosso. Jean-Luc, c'est là aussi un petit peu décevant pour lui.
C'est décevant, évidemment, parce que on a vu que le moteur Honda avait progressé. Il a fait quelques très belles performances en essai libre, hein, Lucas. On l'a vu pointer le bout de son museau. Et là aussi, Pierre, notamment quand c'était un petit peu délicat en termes d'adhérence, on sait qu'il monte chez Red Bull l'an prochain, à la place de Ricardo, justement. Et puis, ça donne confiance dans le moteur Honda. Mais on l'a changé, ce groupe, hein. On a décidé, d'ailleurs, un peu bizarrement, cette stratégie qui n'est pas la même pour les deux pilotes, Lucas.
Oui, c'est ça. C'est le huitième moteur pour Pierre Gasly. Ouais. Alors on rappelle qu'on a le droit à 3 moteurs par saison. Donc on a explosé plus de 2 fois ce quota. Alors là, on va utiliser un moteur, mais en fait on en a gardé un autre pour le Brésil et pour Abu Dhabi. Enfin bref, ouais. Les combinaisons et les stratégies d'Honda sont assez difficiles à suivre. Ce qui est sûr, c'est que ce moteur, il a gagné en performance. En revanche, il manque de fiabilité. Il est un peu en séance d'essai. Hein, il faut le dire, séance d'essai, grandeur nature pour Pierre Gasly. Ouais. Alors bon, pour lui, c'est pas problématique. problématique puisqu'il va aller chez Red Bull et Red Bull sera équipé du moteur Honda. Pour Brendan Hartley, c'est un petit peu plus compliqué. Je pense qu'il aimerait profiter de ses derniers Grands Prix en Formule 1, puisqu'on est en mesure de vous le dire maintenant, Brendan Hartley ne sera pas en Formule 1 l'année prochaine. On lui a annoncé après les qualifications d'Austin qu'il ne continuerait pas avec Toro Rosso. Il pourrait être remplacé par Alexander Albon.
Alors Pierre Gasly il est un petit peu en vacances du coup, si j'ai bien compris.
Il fait du développement, on va dire, pour l'an prochain.
Quelque chose me dit qu'il aime bien profiter justement de ces périodes un petit peu plus light. On va l'écouter, Pierre Gasly.
On fait manger des insectes, donc il y a des vers et des criquets aussi, donc c'est assez particulier. Ils nous ont même fait les piments, la totale. Une bonne soirée mexicaine, mais c'est en termes de cuisine, je préfère la cuisine française de loin.
Ouais, attention, parce que ça peut être dangereux. Je rappelle cette histoire. Je vais pas rentrer dans les détails. Un certain Nigel Mansell, quand même, avait ce qu'on va appeler pudiquement la tourista, si vous voyez ce que je veux dire. Et effectivement, il était tellement malade qu'il pouvait faire que quelques tours avant d'être obligé de s'arrêter au stand et de courir dans le fond de son stand. Vous voyez ce que je veux dire. Et lors du briefing des pilotes, on rappelle comme à chaque fois la procédure avec les drapeaux verts, les drapeaux jaunes, les drapeaux blancs. Et évidemment, Nelson Piquet, qui en ratait pas une, a dit, et pour Mansell, on sort le drapeau marron. Je m'arrêterai là.
Bon, voilà, Nigel Mansell, ça date de quoi? Ça fin des années 80, début des années 90, dans ces eaux-là.
Ah bah oui, quand même, son titre de champion du monde 92, hein, avec la Williams.
Allez, merci Lucas Vinois, on se retrouve ce soir. Merci d'avoir été aussi matinal pour être avec nous, puisqu'on rappelle au Mexique, il est 7h40. Bah allez, vas-y, retourne-y, t'as quelques heures pour te rattraper, pour rattraper le sommeil.
RMC Motors.
World Champion!
Radio Paddock.
Avec Benoît Boutron qui nous a rejoint, rebonjour Benoît.
Rebonjour à tous.
Et on va accueillir Jean-Luc, je vais te laisser l'honneur de l'accueillir, ton invité du jour, pour revenir évidemment sur la victoire de Sébastien Loeb, notamment au championnat du monde WRC sur ce rallye de Catalogne.
Ah bah oui, parce que j'ai un grand plaisir à accueillir effectivement Gilles Panizzi, qui a été l'un des tout meilleurs pilotes français et l'un des tout meilleurs pilotes mondiaux. 7 victoires en championnat du monde, 14 podiums. Salut Gilles.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour Gilles. Et merci d'être avec nous.
Ouais, merci beaucoup, parce que je sais que tu fais du sport en plus le dimanche, donc mais là ça valait le coup, hein. Alors, je vais te faire réagir tout d'abord évidemment sur cette victoire incroyable, la 79e de leur carrière de Sébastien Loeb et Daniel Elena au Rallye Catalogne que tu connais évidemment bien, pour y avoir triomphé également à deux reprises. Alors ta réaction déjà peut-être là-dessus.
Ben déjà c'est énorme, parce que Seb revient et il gagne, donc c'est quand même un sacré coup de théâtre. Maintenant, tant mieux, cocorico, et c'est bien pour Citroën. Par contre, ça va leur donner peut-être beaucoup de réflexion, parce que s'ils n'ont pas un Seb au volant de leur voiture, ils gagnent pas. Donc
Ils vont en avoir un l'an prochain, comme tu sais, mais pas celui-là, peut-être.
Ouais, mais là, il va falloir le mettre dans le bon ordre.
Tiens, on va peut-être rappeler l'ensemble des résultats de ce rallye de Catalogne, justement, Benoît.
Et oui, rappelez donc la victoire de Sébastien Loeb, hein, c'est un événement avec son coéquipier Daniel et Elena, vous en parliez, la 79e victoire de cet équipage, c'est quand même assez hallucinant. Deuxième place pour Sébastien Ogier. Il a tenu son rang dans sa guerre à trois pour le titre de champion du monde avec Thierry Neuville et Ott Tanak. Ogier, qui est leader de ce championnat du monde avant le dernier rallye qui aura lieu dans 15 jours en Australie. 3 petits points d'avance sur Thierry Neuville, qui a terminé 4e aujourd'hui, puisque Elfyn Evans a terminé lui aussi sur le podium. On va juste rappeler que nos deux Français, Loeb et Elena, dominent le WRC depuis maintenant 14 ans. Il y a eu les 9 titres de Sébastien Loeb, il y a eu les 5 titres de Sébastien Ogier, et peut-être un 6e à venir dans 15 jours.
Loeb et Ogier, tu voulais dire, bien sûr, c'est les deux Seb.
J'ai dit Loeb,
et Elena. Non,
Loeb et Ogier, bien sûr.
Oui, ils dominent effectivement, nonuple champion du monde, voilà. Plus les 5 titres, ça fait 14. Et peut-être,
c'est énorme.
Peut-être ça peut faire
tellement longtemps qu'on en attend en Formule 1 que.
Bah, c'est extraordinaire. Alors tiens, Gilles, je vais te faire réagir. Toi qui étais surnommé Tarmac Master et Zébulon, tu vas nous expliquer pourquoi. Tarmac Master, c'est parce que tu as gagné le Tour de Corse à deux reprises, en 2000 et en 2002. Le Rallye de San Remo, à l'époque, était la manche du championnat du monde en Italie à trois reprises. Et puis on vient de le dire, le Rallye de Catalogne. Alors par parenthèse, justement, la Catalogne maintenant, comme tu le sais, c'est mixte. C'est un rallye mixte, et ça, c'est compliqué, avec la première journée sur la terre et ensuite sur le bitume. À ton époque, c'était que du bitume, hein.
Ouais, tout à fait. Bon, après, c'est notre culture, l'asphalte. On a notre championnat de France qui est un championnat qui se roule 100% sur cette surface. Donc, c'est pour ça qu'on est plutôt fort là-dessus. Et, et on fait souffrir la concurrence étrangère. Maintenant, à mon époque, il y avait aussi les Espagnols, enfin tout un petit peu, je dirais, les pilotes latins, les Italiens, les Espagnols, qui aussi avaient des championnats un peu équivalents aux nôtres. Et c'est pour ça qu'on faisait vraiment souffrir le reste du monde, je vais dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le rallye de Catalogne est un rallye sur les deux surfaces. Maintenant, c'est bien. J'ai eu l'occasion de m'entraîner à plusieurs reprises sur des revêtements sur la terre en Espagne pour préparer des manches en mondial. Et ce sont vraiment de très, très belles pistes et très agréables à piloter. Donc, parce que le rallye du Catalogne aujourd'hui, son parcours est, à mon avis, vraiment magnifique.
Ah oui, c'est incroyable. Et d'ailleurs, que penses-tu aussi de ce scénario, hein, qui est là aussi, qui est pour préserver le suspense. Enfin, évidemment, ouais. Nous, Français, on est vachement heureux de voir que Seb Ogier a réussi à s'imposer, ouais. Effectivement. En tout cas, à prendre la tête du championnat. Une petite question aussi. Est-ce que ça peut pas être un handicap? On y a tous pensé avant le rallye d'Australie qui est sur la terre. Gilles, qu'est-ce que ouais. Tu en penses? C'est lui qui va ouvrir la piste, hein?
Ben bien sûr, bien sûr tout le monde pense à ça et je sais très bien que Sébastien il en parle depuis maintenant plusieurs ouais. années. Et
il se plaint de ça, ouais.
Ben ouais, mais évidemment parce que l'Australie en plus c'est des spéciales. Si vous me dites que le championnat se finit au rack en Angleterre comme c'était à mon époque,
oui.
Et c'est peut-être même bien de partir premier parce que là-haut vous êtes dans la boue et plus les voitures passent et plus ça remue la boue et plus ça glisse. L'Australie, c'est l'inverse. On roule sur ces espèces de cailloux qui sont un petit peu de pilles, un petit peu lourdes. Et je vous assure que entre la première voiture et mettons on va dire la quatrième, il peut y avoir une seconde de kilomètre. C'est énorme. Énorme à ce stade. Donc, ça peut se discuter en minutes à la fin d'une grosse étape. Maintenant, il est premier du championnat et son concurrent, son adversaire, est deuxième. Donc, il y aura une voiture. Alors, sur une voiture, il va partir premier, l'autre il partira second.
Oui, pas grosse différence.
Je ne me trompe pas. Ben, non. Ouais. À ce stade-là, non. C'est-à-dire que, évidemment, il aura déjà une trajectoire, celle de Sébastien Neuville.
Oui, il aura des traces qui peuvent un peu l'aider peut-être, mais bon.
Oui, mais bien sûr que ça va l'aider un petit peu, parce qu'entre chaque voiture, les ingénieurs savent. On sait le mesurer aujourd'hui, mais je dirais que l'addition ne sera pas trop lourde. Sébastien, on peut lui faire confiance, il va bien conduire. Là, il vient de le démontrer quand même en Catalogne. Il y avait quand même 6-7 voitures dans la seconde.
Ah, c'était chaud.
Le rallye se disputait à 10 secondes près. Vous avez à un moment donné 5 voitures. Ça fait des années qu'on voit plus ça.
Ouais.
Je trouve ça génial pour le rallye.
Bah, c'est fabuleux.
Ouais, tant mieux qu'on ait en plus encore un Français pour se battre pour la couronne. On laisse pas grand-chose aux autres. Donc ça, c'est vraiment génial. Bah, maintenant. On peut lui faire confiance. Moi, je pense que c'est sûr que c'est une finale, en fait. En fait, c'est une finale. Hein,
Oui.
Parce que c'est celui qui sera devant l'autre qui gagnera, en gros, si j'ai à peu près.
Bah, avec 3 points d'écart, tu as raison. C'est exactement ça.
Voilà. Donc, c'est un match de. Là, on est dans un match de coupe. C'est une finale.
Ah ben c'est tout ou rien. Alors Gilles Panizzi, je profite de ta présence évidemment et je sais que tu vas adhérer à cette question. On n'oublie pas Julien Ingracia, hein, le l'indéfectible copilote de Sébastien Ogier et puis Daniel Elena, celui de l'Eub. Toi tu roulais avec ton frère Hervé. À quel point c'est important en rallye d'avoir cette osmose entre le pilote et le copilote?
Ben vous venez de le dire, c'est une osmose et ça pour que cette mayonnaise prenne au sein de cet équipage. Il faut vraiment s'apprécier, il faut se connaître, il faut. Bon, moi, c'est vrai que c'était mon frère, mais je dirais que c'est la même chose. Ça fait des années qu'ils roulent ensemble pour les deux couples dont on parle. C'est une confiance aveugle de l'un comme de l'autre. C'est-à-dire que le copilote ressent parfaitement son pilote. Il sait quand il est pas bien et à l'inverse, il sait quand il est bien. Donc, ils vont sortir l'intonation qu'il faut au bon moment à chaque fois.
Oui.
C'est juste ça. C'est que ça marche au doigt et à l'œil, c'est de la perfection.
Et
on
n'a
pas le temps de se raconter des grandes phrases et ça fonctionne comme ça.
Les
couples fonctionnent justement que comme ça après tant d'années de collaboration ensemble, ils se connaissent parfaitement. Vous savez, rappelez-vous à un moment donné Didier Auriol qui disait à l'époque, je connais mieux Bernard Rotelli que presque. Je passe plus de temps avec mon copilote qu'avec mon épouse.
Qu'avec son épouse, absolument. Oui, c'est la fameuse histoire.
Ça veut tout dire.
Ça veut tout dire. Voilà. Gilles Panizzi, toujours avec nous, 7 fois vainqueur en championnat du monde des rallyes. Alors, Gilles, tu as fait l'essentiel de ta carrière, hein, tes beaux résultats avec Peugeot. Là aussi, on va parler de cette équipe française Citroën. Hein, c'est dans le groupe PSA qui recrute justement l'an prochain Sébastien Ogier. J'ai envie de dire, enfin, on aurait peut-être dû le faire il y a 2 ans, non? Puisqu'on voit bien que la voiture, elle marche. Allez, on se mouille.
Ouais, non, 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 bien sûr. Mais après, vous savez, les choix, moi, c'est tellement personnel. Ouais. Bon, s'il n'est pas, s'ils ne se sont pas déjà associés il y a déjà 2 ans, bon, j'ignore les raisons. Ouais. Maintenant, ce qui est important, c'est demain et que. Et qu'on ait Sébastien Ogier qui débarque chez Citroën, ça c'est vraiment génial.
Ça c'est génial.
Bien sûr, mais bien sûr, parce que on a de grandes chances de revoir briller la marque au chevron. C'est pas rêvé, hein.
Eh oui.
Parce que si ils se marient tous les deux, c'est que ils ont la même envie les deux. Donc cette ambition de Citroën de retrouver la couronne mondiale des constructeurs. Donc tout va être mis en œuvre pour ça et moi je trouve ça génial maintenant.
Ça va être
reste à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de l'OB.
Ouais. Bah alors voilà, c'est la très bonne question. Surtout qu'il n'a pas de contrat, il n'a plus de contrat Peugeot en rallycross puisque Peugeot a annoncé son retrait. Gilles, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Écoute, tu reviendras, c'est toujours un plaisir. On n'a pas eu le temps, mais je voulais te poser une question. Pourquoi on te surnommait Zébulon, mais tu nous diras ça la prochaine fois.
Ouais, d'accord. Merci beaucoup à toi.
Merci. Bon dimanche.
Merci Gilles Panizzi d'avoir été avec nous. En direct dans Motors sur RMC 13h54, la dernière ligne droite avec Benoît de Radio Paddock, le Grand Prix de moto d'Australie.
Exactement, avec c'est un événement, une victoire pour Maverick Vinales et Yamaha. Et oui, ce n'était plus arrivé depuis Assen à l'été 2017, 25
incroyable.
Courses sans victoire pour Yamaha, une série qui s'est donc interrompue ce matin au Phillip Island. Victoire de Vinales devant les deux Andrea, Iannone et Dovizioso. Course marquée évidemment par la chute spectaculaire de Johann Zarco. Heureusement, une chute sans gravité puisqu'il a percuté en fait la moto de Marquez. Il n'a pas vu Marquez freiner et il est passé au-dessus de sa moto. On a eu très peur pour Johann Zarco. Aucune égratignure a priori pour lui. La combinaison a bien fait son travail. Donc Zarco a dû abandonner tout comme Marquez. On retient donc cette victoire de Vinales et le retour de Yamaha au plus haut niveau, Jean-Luc.
Mais tu as raison. On va commencer peut-être par la chute de Johann parce que c'est une faute partagée. D'ailleurs, moi, comme je pense tous les fans de moto, on s'est tous levés à 4h du matin pour regarder ça.
Johann s'est excusé quand même. Hein.
Oui, il s'est excusé. C'est-à-dire qu'en fait, il a pris l'aspiration là aussi. Il y avait un autre pilote devant. Ils ont pris l'aspiration les deux et Marquez ne savait pas évidemment que Johann était en train de lui faire l'extérieur. On arrive à 330 km/h à cet endroit-là. Et effectivement, à moto aussi, les phénomènes aéros sont moins importants naturellement qu'en Formule 1. Mais il a été quelque part aspiré. Et puis Johann était en mesure d'attaquer Marquez en fait. Il était en train de l'attaquer au moment où Marquez s'est serré. Donc moi je dis quand même, alors ok, la majeure partie de la faute, je veux bien, parce que Johann, c'est lui qui a été percuté Marquez. Heureusement, Marquez n'est pas tombé, mais qu'est-ce qu'on a eu peur quand on a vu effectivement Johann par terre à 300 km/h. Heureusement, il ne s'est pas mis à tourner. Il est resté bien groupé et puis il a surtout glissé sur l'herbe.
Exactement.
Donc ça s'est finalement pas trop mal passé pour lui.
Merci. Merci Benoît pour toutes ces infos dans Radio Paddock. Jean-Luc.
Oui.
On te retrouve évidemment, aujourd'hui,
20h10,
ce soir.
On va essayer de faire notre place au milieu du foot.
Ça sera notre plat principal en tout cas concernant les sports méca ce soir, ce Grand Prix du Mexique,
toi,
du championnat du monde de Formule 1. 19e
merci,
Grand
Benoît.
Prix de la saison sur 20h. Il en restera deux derrière. Ça veut dire que si Lewis Hamilton se classe à minima dans les 7 premiers, ce soir.
À condition que Vettel gagne.
Eh bien, Lewis Hamilton sera sacré pour la 5e fois de sa carrière champion du monde de Formule 1.